Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on lit comme ça les actes des apôtres tout ce temps-ci, et puis il y a les paroles de Jésus à ses disciples pendant les 3 ans où il était avec eux. Et il y a une chose que je trouve très curieuse, c'est que l'avenir de l'humanité, enfin tout le la mise en branle de toute l'humanité, cette masse de gens qui de personnes humaines, cette quantité inouïe, elle avance ça pas à pas, et à chaque fois c'est avec peu de gens. Jésus, il est avec une poignée. C'est vrai. Et puis au bout de 3 ans, il commence à comprendre. Oui, très bien. L'évangile d'aujourd'hui, d'accord, voilà. Maintenant, on croit que toi, quand on te voit, tu viens de Dieu. C'est Dieu qui vient à nous. Les 12, au bout de 3 ans, ah bon, alors Jésus leur dit, l'évangile d'aujourd'hui, c'est ça. Je leur dis, ah bon, vous croyez, c'est-à-dire vous me regardez et vous voyez que Dieu qui vient vers vous, c'est moi. Vous croyez que je viens de Dieu. Bon, c'est bien, vous allez vous retrouver dispersés, isolés, vous allez souffrir. Mais je suis vainqueur du monde. Et voilà, ça c'est l'évangile d'aujourd'hui, mais vous allez la souffrir, mais on est seul, je suis seul, vous, mais on est quand même en paix ensemble, parce que je suis avec vous, je suis victorieux du monde. Apollos, on voit que c'est cette course qui s'est faite entre Paul, Barnabé, Silas. C'était pas une masse, hein, je veux dire, ça tenait sur ce Saint Paul là, il était avec Saint Luc, avec Saint Jean Marc, avec Saint Timothée, enfin, et puis c'était à chaque fois 2 ou 3, quoi. Et puis là, par extraordinaire, Apollos était passé par là, à Éphèse. Éphèse, c'est en Asie. C'est l'Asie mineure. Et là, ils étaient une douzaine. Mais une douzaine qui pensait avoir été déjà baptisée. Ils disent, nous, on est chrétiens, on est baptisés par Apollos et tout ça. Ah bon. Non, en fait, c'était pas vraiment le baptême, c'était pas le baptême de Jésus, parce que vous avez pas reçu la Pentecôte du Saint-Esprit, vous avez pas reçu le baptême de... Enfin, dans les actes des apôtres, on voit que les choses avançaient pas à pas, petitement, et avec une poignée à chaque fois. Éphèse, c'était immense. Il y avait 4 millions de personnes qui allaient chaque année à Éphèse. À 6 millions. Il y avait un pèlerinage pour la maternité divine du ciel, là. Sémiramis, tout ça. Bon, les gens venaient de partout, là, pour célébrer la maternité céleste, la protection, etc. Là, il était une douzaine. Et encore, ça faisait des années qu'ils étaient là, ils pensaient qu'ils avaient... ils pensaient qu'ils étaient petits, puis en fait, ils ne l'étaient pas. Manger à l'église, hein. Et Éphèse, c'était un des points principaux. Et puis, l'église, elle a avancé quand même. Elle avait avancé comme ça, avec peu de gens, toujours une poignée. Je pense par exemple à Saint Jacques, quand il était à Saragosse. Pareil, 17, sept personnes, sept hommes qui étaient là et qui se sont convertis à Saint-Jacques. Alors voilà, il a fait une Saint-Jacques du coup, avec eux, ils ont construit une église après des années d'apostolat de Saint-Jacques. Ça tient. Et quand vous y pensez quand même, hein, vous êtes d'accord? Jésus, regardez. Il a passé 30 ans, puis après 3 ans avec des disciples. Bon. D'accord, c'est parce que. Mais enfin, il faut bien reconnaître, quoi, que le nombre, quand ça a commencé à faire beaucoup de chiffres, beaucoup de nombres, une quantité énorme de gens, c'était avec Saint-Pierre. C'était des milliers, des milliers, des milliers de gens qui étaient baptisés à Jérusalem. Mais enfin, dans l'ensemble, quand ça avance d'un pas, l'Église, elle avance pas à pas, avec très 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 peu, très très peu. Là, on le voit dans les Actes des Apôtres, Apollos, et encore Apollos, il ne sait pas la différence entre le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, et le baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, le signe bizarre, hein, à cette époque-là, le signe, que ce soit Saint-Pierre, que ce soit Saint-Paul, que ce soit Apollos, que ce soit, le signe, c'est quand ils reçoivent l'Esprit Saint. Ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors, quand ils sont baptisés et qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, et ça se manifeste par ce fait que l'Esprit Saint, la personne du Saint-Esprit, enfin, c'est quelque chose, quoi, qui vient du ciel, vient sur une poignée de gens, ordinairement pas nombreux, vient sur eux, ils sont ensemble, ils prient, ou ils sont baptisés, peu importe, et il y a quelque chose qui descend en eux, qui rentre en eux, la puissance du Saint-Esprit, enfin l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et du coup, il y a quelque chose en eux qui fait que le ciel est ouvert, qu'il y a de la lumière, qu'il y a des charismes, qu'il y a qui parlent des langues, bizarres, enfin bon, qu'ils ont un autre langage, ils ont d'autres. Apparemment, il y a beaucoup de pas d'effervescence, mais beaucoup de libérations qui se font, beaucoup de lumière intérieure, beaucoup de joie, beaucoup d'expression, beaucoup de babillement, beaucoup de manières de prier très très libre, enfin très très lumineuse, très très joyeuse, très. Enfin, on a l'impression d'une libération de lumière, quoi, qui rentre en eux, bon, ça, et qui fait que bon, c'est plus la même chose du tout, hein, la relation avec avec Jésus, la relation avec Dieu n'est plus du même, n'a plus rien à voir, et ça se voit à l'œil nu. Hein, voilà, en gros. Bon, bah, après tout, si c'était ça le signe, c'est qu'on voit, on s'aperçoit que quand même, c'était le grand signe. Hein, on voit Saint-Pierre avec Corneille, on voit chez Corneille, on voit ici, là, aujourd'hui à Éphèse, on voit. Ça peut les Barnabé et Antioche, bon, ils reçoivent le Saint-Esprit exactement comme nous, comme les apôtres ont reçu au jour de la Pentecôte, enfin, la même chose, la même effusion, la même. Il n'y a plus aucune peur, il y a une paix, il y a une paix céleste, il y a une joie commune aussi, il y a une unité très forte, il y a une victoire sur tout ce qui est contraire. Et voilà. Et ça, c'était ça le signe au début. C'était vraiment ça. Et du coup, une force, bien sûr, hein, une force, on le voit avec Saint-Étienne, le Saint-Esprit, il était rempli du Saint-Esprit quand il regardait vers le ciel. On avait l'impression de voir un ange rempli de lumière. Et puis, de la bouche sort une proclamation sur Jésus, sa divinité, le fait que c'est lui le juste, c'est lui le Dieu vivant qui vient, qui revient. Et cette vision, cette unité avec ce monde de la lumière de Jésus qui est venu, et qui est le Dieu vivant, qui nous a sauvés, qui nous a libérés, et qui revient, et qu'on le voit revenir, et ça fait la joie de tout l'univers. C'est voilà, ça, c'était ça. Constamment, ben, c'était ça le signe qu'ils avaient été baptisés, quoi. C'est à ça qu'on reconnaissait qu'ils étaient nôtres. Donc ce qui me frappe aussi, c'est ce petit à petit, et toujours à partir de un, de deux, ou d'une poignée. Bon, quelquefois une masse, mais ça c'est exceptionnel quand même, les trois premières années après la Pentecôte. À Jérusalem, c'est un petit peu spécial quand même, c'est quand même particulier. Alors en Afrique, aujourd'hui en fait, les martyrs de l'Ouganda, Jean-Charles Luanga, c'était une 22e. Le pape Paul VI a voulu les canoniser, Saint Paul VI les a canonisés, c'était j'avais 15 ans, j'avais 14-15 ans moi, quand il les a canonisés. Pape Paul VI canonisait pratiquement jamais personne. Mais là, il les a canonisés parce que ces jeunes-là, qui avaient 20 ans, 20, 25 ans, ils ont refusé, parce qu'ils étaient chrétiens, parce que pas à cause du Christ, à cause de Jésus. Ils ont dit non, ils ont refusé l'homosexualité. Ils ont refusé de pratiquer. L'homosexualité à la cour des princes, quoi, des responsables, des rois. Ils ont refusé pour eux, non, nous, on ne pratique pas l'homosexualité. Donc c'est des martyrs de l'homosexualité. C'est impressionnant. Et ils ont versé leur sang avec des supplices, hein. Bon, faut voir, les supplices africains, bon, c'est pas très... Ni pas être brûlé. Et ces martyrs de l'Ouganda, ces jeunes, Saint-Charles et tout ça, c'était des catéchisés, au fond, finalement. Mais ils ont donné leur sang. Et pour nous, c'est important, je crois, parce que de le fêter aujourd'hui, parce qu'on est dans une... ces martyrs-là étaient une poignée, une vingtaine. Ils ont dit non. C'est uniquement pour eux, parce qu'ils refusent le péché de la sodomie. Ils ont refusé qu'on les sodomise. Ils ont dit non, on est chrétien, on peut pas, non, on se laissera pas. On peut pas se laisser faire, et puis ils participent. Non, on peut pas. Donc c'est pour éviter le péché mortel. Ils ont versé un seul péché mortel, ils veulent pas. Un seul péché mortel. Un péché moral, si vous voulez, c'est... On allait dire c'est une coutume. Ouais. Et bien, pour éviter le péché, un péché de la sexualité, une seule fois, ils ont subi ce martyr. Et bien, du coup, ils ont fécondé par leur sang versé, en refusant le péché. Ils n'ont pas été martyrisés, torturés, etc. Parce qu'ils ont professé le Christ. Mais ils étaient chrétiens et ils ont refusé le péché sexuel. Une fois. Donc, c'est la seule chose pourquoi on les a condamnés. Pas parce qu'ils étaient chrétiens, mais c'est parce qu'ils étaient chrétiens qu'ils ont refusé. Ben, le pape Paul VI a dit, c'est aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. on canonise des gens parce que les gens, les catholiques, ils n'ont plus le Saint-Esprit parce que ils se permettent d'être catholiques, d'aller communier, mais pour eux, le péché, c'est pas grave. Et bien ça, c'est diabolique. Et donc, il a dit, on va les canoniser. Et il les a canonisés, et on voit que cette poignée de jeunes, là, de jeunes gens, eh bien, ils ont fécondé par leur martyr toute l'Église de la Terre. Ils ont fait avancer l'Église d'un nouveau pas à eux tout seuls. C'est une poignée, mais c'est toute l'Église de la Terre qui du coup avance magnifiquement, magnifiquement, collectivement, unanimement. Ils ont fécondé toute l'Église de la Terre, et continuellement, et toute l'Afrique, bien sûr, mais toute l'Église de la Terre, et on le voit aujourd'hui, puisque aujourd'hui, hein, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'Église et l'humanité? L'Église est une poignée, et l'humanité, ben, c'est Sodome. C'est cette espèce de frénésie métaphysique d'une homosexualité d'égalité ontologique, l'égalité ontologique de la sexualité homosexuelle, parce que elle est indispensable. Ce péché là est mortel parce que il va massacrer la substance même de l'humanité tout entière dans le psychosome et soi-même, parce qu'il y a un lien direct entre l'homosexualité et l'égalité et l'agression contre Dieu, là où il se trouve, dans ce qu'il y a de plus fragile, de plus délicat. Et ce qu'il y a de plus délicat dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. Il y a quelque chose dans l'union transformante, c'est tellement, c'est pas seulement onctueux, c'est pas tellement une libération seulement. On le sait très très bien dans le mariage spirituel, dans les dernières demeures de l'Apocalypse, à quel point la présence du Saint-Esprit est délicate. Elle est vulnérable. Parce que l'amour de Dieu, quand vous aimez beaucoup quelqu'un, eh bien vous devenez du coup très vulnérable. Mais un petit cheveu d'indélicatesse vous fait un mal fou. Et le Saint-Esprit, ça, c'est à l'état total qu'il est, le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que si vous faites un petit mouvement pendant l'oraison, parce que le Saint-Esprit voudrait bien prendre toute la place, prendre son envol, se réjouir à l'intérieur de l'Église tout entière à travers vous pendant une demi-heure. Mais si vous faites un petit mouvement, une petite pichenette, hein, une toute petite pichenette, rien du tout, dans l'œil de la colombe, elle s'en va immédiatement. 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 Ces martyrs de l'Ouganda d'aujourd'hui représentent quelque chose de beaucoup plus important qu'on ne le pense. Et le pape Paul VI, vous savez, il savait. Où était le... Voilà, le Saint-Esprit aujourd'hui. Et l'Église, eh ben, elle avance vers la Jérusalem dernière. Et en même temps, le monde d'aujourd'hui, il va vers la grossièreté la plus invraisemblable, qui écœure même Satan, quand il voit les hommes s'y livrer sous son influence. Il n'en ricane pas, je crois qu'il est écœuré par les hommes, mais il est content quand même de les y engolfer là-dedans, d'accepter le péché. Est-ce que c'est pas ça le problème d'aujourd'hui? Que le péché soit acceptable. pas jugé, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de manières de dire. Hein. Il y a plein de manières d'être luciférien. Mais non, écoute, de toute façon. Alors, pour Jésus, c'est pas écœurant. Je crois que le démon est écœuré par les hommes qui sont dans le péché. Il trouve ça tellement... Parce que qu'on le veuille ou non, Lucifer est le prince de ce monde. Donc, il sait se réjouir de l'existence et de la lumière. Donc, quand il pousse les hommes au péché, que ça donne des trucs aussi monstrueux que l'homosexualité, la sodomie, le massacre, la torture, enfin, je sais pas moi, c'est cette espèce de Moloch, quoi. C'est tellement hideux, c'est tellement écœurant que lui-même il est écœuré de ça. C'est son travail, c'est parce qu'il veut bien montrer au bon Dieu que le bon Dieu s'est trompé. Il n'aurait pas dû choisir des petits êtres humains pour être ses disciples, il aurait dû choisir lui pour être le médiateur entre Dieu et les hommes. Parce qu'au moins, eh bien, Dieu ne s'est pas laissé faire par Lucifer. Il ne s'est pas laissé faire par Lucifer. Il a envoyé son fils et Jésus. Il n'est pas écœuré par les hommes comme Lucifer. Mais il vient au milieu d'eux. Il vient avec eux. Il vient en eux. Il vient les sauver. Il les aime. Et il les aime d'une manière très, très, très profonde. Jésus, il est à l'intérieur d'eux. Et il engendre un amour continuellement. Continuellement immense. Continuellement profond. Continuellement pur, d'une pureté, d'une virginité qui produit elle-même une fécondité d'amour, d'une profondeur, d'une délicatesse. Il les aime. Il les aime. Il nous aime. Il vit en nous. Il vient vivre en nous. Il vient s'extasier en nous. Il vient exulter en nous. Il vient se répandre en nous. Il vient éperdument nous étreindre, se liquéfier en nous. Il vient exprimer sa délicatesse éternelle et donner un amour aussi d'une intensité en infinité absolue et sans limite et sans voile avec son amour à lui du dedans de notre chair, de notre sang, de notre cœur. Et Jésus, il le dit dans l'évangile, et ben aujourd'hui il le dit, et ben vous aurez à souffrir, mais n'ayez pas peur parce que je suis vainqueur. En faisant comme ça, en étant des myriades de fois de plus en plus vulnérables d'amour, c'est ça qui obtient la victoire. Il dit, je suis victorieux. N'ayez pas peur parce que je serai victorieux de tout. J'ai vaincu. Voilà. Je suis vainqueur du monde. Eh ben, je vais vous dire, c'est le moment, hein, on est dans la montée vers le véritable Pentecôte d'amour de la Jérusalem dernière. Jésus est vainqueur, cet amour à l'intérieur de nous. Eh bien, il faut le cultiver, et il faut qu'il ait... Nous allons coopérer, hein. Et c'est un petit peu ça notre travail, hein, sur la terre. On a une poignée, peut-être. Nous sommes peut-être une poignée, mais c'est pas grave. Ça suffit, hein, à provoquer, à ouvrir avec le roi, ça c'est sûr. Et avec l'obombration de la fécondité de Marie, dans la délicatesse eucharistique que nous vivons tous les jours. Ce déploiement à l'intérieur de nous, dans la nature humaine tout entière. On va cultiver ça, cultiver cet amour. Le cultiver, le découvrir, et en jouir, en resplendir, en lui donner cette liberté de s'intensifier en délicatesse, en vulnérabilité, en victoire, en profondeur, en étonnement, en admiration, en excitation, en louange. Et la transformation du monde est entre nos mains et on en prend conscience. Et c'est pas seulement d'en prendre conscience que je veux dire, vous voyez, mais je suis victorieux quand je fais ça. J'en prends la voix de l'amour, la voix la plus fragile qui soit. La plus délicate qui soit. La plus ajustée qu'elle soit, la plus liquéfiée qu'elle soit, la plus lumineuse, la plus agile, la plus adaptée à l'invasion de tout, de tous. Et dans les profondeurs de chaque instant vivant et lumineux de ma vie en vous et de votre vie en, dans cette course et cette transplantation à l'intérieur du royaume de Dieu, du royaume de l'amour et de la lumière. Alors Jésus le dit, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. C'est ça qui, à un moment donné, bah, emporte la gloire de Dieu. Dans la Jérusalem nouvelle qui vient, puisque les portes vont s'ouvrir pour l'entrée dans la Jérusalem nouvelle, dans les jours qui viennent, eh bien, il n'y aura pas de péché. Les catholiques seront sans péché. Le péché, le moindre péché, sera, pour ainsi dire, insupportable. Inenvisageable, enfin, pour eux. Ben, c'est déjà votre cas à vous, hein, donc pas de problème. Je n'ai rien à vous apprendre là-dessus, c'est pas vrai. Mais c'est formidable, ça va dans la Jérusalem. Il y a une espèce de pentecôte du Saint-Esprit, mais c'est une pentecôte de l'Immaculée Conception, déployée dans la délicatesse de la Jérusalem dernière, dans tous les membres vivants de cette Jérusalem dernière. Et cet amour de lumière de la Jérusalem nouvelle, dans la nature humaine tout entière, avec sa délicatesse, c'est-à-dire son adaptation, son affinité, avec tous et chacun, et le tout dans un climat savoureux, délicieux et suave, de paix parfaite. C'est ça que le Saint-Esprit va nous donner. Il va pas nous donner des paroles en langue, des messages tonitruants qu'on avait dans l'Église. Elle a avancé comme ça, pas à pas. Et nous faisons partie de l'Église de la fin. Il va falloir que les prêtres s'y mettent à ça. Et les cathos aussi. Il va falloir qu'ils s'y mettent, je vous assure. Et d'ailleurs, ils s'y mettent. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est la seule solution qui se trouve devant nous. Donc, je veux dire, il va falloir qu'ils s'y mettent, bien sûr. Ce que disait la Sainte Vierge à la salette en pleurant, avec son soleil de lumière qui était là. Et puis, au-delà de ce soleil, un deuxième soleil, un troisième soleil qui allait encore plus loin. Et on pénètre en elle et on voit ses larmes. Et Jésus qui agonise. Et elle dit, les apôtres de mes derniers temps, les enfants de du monde nouveau des derniers temps, nous proclamerons les fins dernières, vivrons les fins dernières. Il faut que les chrétiens, les prêtres, il faut qu'ils s'y mettent à ça. Il faut expliquer ce que c'est que les fins dernières. La Jérusalem nouvelle qui est entre nos mains, une poignée. Il faut qu'ils s'y mettent. C'est à ça qu'on reconnaît les apôtres du dernier temps, les enfants qui sont dans l'arche d'alliance de l'Immaculée Conception, dans sa spontanéité féconde, d'une délicatesse inouïe, mais effective et universelle, et tout intérieure et incarnée dans le corps spirituel. Il faut expliquer les fins dernières. Il faut proclamer les fins dernières, il faut manifester les fins dernières. Il faut que les prêtres s'y mettent. Les prêtres, les ministres de mon fils, les catholiques, les enfants de mon nouveau, on les reconnaîtra à leur obéissance, leur humilité, mais parce qu'ils proclameront et vivront les fins dernières. D'un monde infiniment grossier, devenu substantiellement immonde. Les deux extrêmes, il y a une poignée au milieu. Et c'est ça qui fait le climat des fins dernières. Mais on n'a pas à avoir peur. Alléluia.